en lisant les Écritures, je vois des petits flashs de lumière. Je dis flash parce que ce n'est pas des pages complètes avec des plans et des schémas sur après. C'est juste des petites paroles dispersées dans les Écritures saintes, mais suffisantes pour nous dire il y a quelque chose qui nous attend. Je vais simplement faire la lecture en introduction de l'Évangile selon Luc au chapitre 12 et au verset 16. C'est une parabole, vous l'avez certainement déjà entendu souvent, mais ça nous servira simplement d'introduction. Luc chapitre 12, verset 16. C'est une parabole, c'est-à-dire une histoire que Jésus a inventée, mais qui est calquée sur la réalité, mais pour nous dire beaucoup de choses, à nous. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?» Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Beau programme. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous arrêtons la lecture ici. Amen. Mes amis, j'ai travaillé quelque temps comme pasteur dans les Vosges. Vous connaissez les Vosges? Cette chaîne de montagnes dans l'est de la France, c'est très joli. Et quand on descendait dans la plaine d'Alsace, on voyait au loin ce qu'on appelle la ligne bleue des Vosges. Les Vosges comme un mur bleu. Et on ne voyait que ce mur bleu. On ne voyait pas les chemins, on ne voyait pas les routes qui pouvaient nous permettre d'aller de l'autre côté, de l'autre côté. Et justement, j'aimerais vous montrer des petits chemins qui ne nous permettent pas de passer, mais de voir de l'autre côté. Il y a 499 ans, ce n'est pas d'hier, Martin Luther, un 31 octobre, eh bien, il s'est posé la question en mettant sur la porte de son église des affiches qui ont fait beaucoup de bruit à l'époque et encore aujourd'hui, pour se demander, y a-t-il un chemin pour passer de l'autre côté dans le cœur de Dieu? Y a-t-il un chemin? Y a-t-il un avenir dans la mort? Là où l'avenir n'existe plus. Vous permettez que je vous en parle? Vous m'entendez bien, ça va? La première des choses, mes amis, c'est peut-être d'être enfant de celui qui va nous recevoir. Si je suis enfant de ce Seigneur, Créateur du monde, eh bien, j'ai beaucoup de chances de passer, non? Si je suis son ennemi, son adversaire, si je suis toujours en colère après lui, ou si je ne crois pas en lui, si je le renie, je ne sais pas ce qu'il va faire de moi. L'essentiel devant cet avenir de la mort, c'est de devenir enfant de ce juge qui va nous recevoir. Car nous sentons bien en nous que nous rendrons des comptes. Être enfant adopté, j'aime beaucoup l'adoption, parce que dans l'adoption, il y a quand même un choix quand on a un enfant, on le prend parce que parfois même certains disent « c'est un accident ». C'est terrible de dire ça quand même. Hein. C'est un accident. On ne voulait pas l'enfant, il est là. Comme s'il fallait supporter. Mais celui qui adopte un enfant, il choisit, fait une déclaration d'amour. C'est une volonté du Père. Et la Bible nous dit que nous pouvons devenir des enfants adoptés, déclarés enfants par notre Père céleste, comme une volonté de Dieu. Alors, si je suis enfant, je suis rassuré. Mon Père ne m'abandonnera pas. Il m'a déjà choisi, il m'a adopté, il m'a déclaré son enfant, il ne m'abandonnera pas. Et il me dit même, celui qui vous touche, touche la prunelle de mes yeux. Et il dit lui-même, personne ne vous prendra de ma main. Et il dit lui-même, rien ne vous séparera de mon amour. Je pense que devant la mort, le plus important, c'est que par la foi en Jésus, nous devenions les enfants de celui qui nous recevra. Alors, c'est la plus grande garantie. L'apôtre Pierre, vous le savez, il a marché sur l'eau quelques secondes pour aller vers Jésus, pardon. Et il a coulé dans l'eau. Et il a crié, « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus a étendu la main et il a saisi son apôtre. Alors je pense qu'un jour nous serons sur l'eau aussi et nous sentirons que notre vie s'en va et nous crierons, « Seigneur, sauve-moi !» Et le Seigneur ne fera pas défaut, c'est un Père qui respecte sa parole, qui aime ses enfants, qui ne change pas de caractère, qui ne change pas de sentiment. C'est un Père qui dit oui, oui pour toujours, et il nous dira, oui mon enfant, je suis là. Ne promène pas des regards inquiets. Si nous devenons des enfants de Dieu, par un retour vers Dieu, alors nous avons droit d'écouter la parole de Jésus qui dit, ne crains pas, crois seulement. Quand nous sentirons la vie qui part, que la main de nos enfants s'en va, que la main retombe et n'a rien saisi. Nous pouvons entendre la parole de Jésus, « Ne crains pas, crois seulement, je suis avec toi et je suis un Père, dira Jésus, qui donne de bonnes choses à ses enfants. » Les apôtres disaient, « Petits enfants, vous êtes de Dieu, vous appartenez à Dieu, et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Quand on est les enfants de ce Père, quel mal peut nous atteindre vraiment? Ne disons-nous pas d'ailleurs dans notre prière, « Notre Père, délivre-nous du mal. » Mais la mort, c'est un mal. C'est le dernier ennemi, dit Jésus. Délivre-nous du mal, ce qui veut dire que ta puissance soit plus forte que la mort, que ton règne soit plus fort que la mort, que ton amour triomphe sur notre mort. Oui, avant de vous parler des petits chemins de l'avenir à travers la mort, je dois d'abord vous dire l'essentiel, c'est d'être enfant de ce Dieu qui nous recevra, qui nous jugera, qui nous conduira, qui nous ressuscitera. Si je suis son enfant, alors je ne crains pas. Parole d'une petite fille. Dans un avion, il y avait des turbulences très importantes. J'ai pris rarement l'avion, mais un jour, on a dansé dans l'avion, tellement il y avait de turbulences. Puis une petite fille était là, puis elle était toute tranquille, rayonnante, elle jouait avec ses petites affaires, elle était dans l'avion, puis on lui a dit, mais t'as pas peur ? Ben non, j'ai pas peur parce que papa, c'est lui qui conduit l'avion. C'est papa qui conduit l'avion. C'est notre Père qui nous recevra. Alors de quoi aurions-nous peur ? C'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais vous montrer sur ces petits chemins, ne vous laissez pas voler votre âme. Ne vous laissez pas voler votre âme. Vous avez vu l'histoire de l'homme riche avec ses greniers, cet homme qui n'a pas de nom, qui est un homme anonyme, qui gagne, qui perd, en tous les cas, qui est devenu très riche, plus que vous et moi, mais qui est un homme qui n'est lié à personne, il ne parle de personne. On a l'impression qu'il est tout seul au monde. Il doit connaître beaucoup de monde dans le domaine agricole, mais il n'est lié à personne. Il ne parle pas de sa femme, il ne parle pas de ses enfants. Il a réussi. Que ferais-je ? J'en battrais mes greniers, j'en bâtirais de plus grands. Il a réussi, mais il a perdu le sens de la vie. Il a gagné quelque chose, il a perdu quelque chose. Le sens de la vie. Le sens, c'est la signification, mais c'est aussi la direction de la vie. Le bon sens, ça veut dire la direction de la vie. Où allons-nous ? Vers quoi ? Vers qui ? Alors, nous pouvons avoir des biens, des fortunes, et nous endormir, comme disait le psaume, du sommeil de la mort. On s'endort, on ne pense plus au royaume d'en haut, au compte qu'il faudra rendre. On ne pense plus aux autres, on ne pense plus pour lui, il ne pensait plus à sa famille, il ne pensait plus à personne, il ne pensait même plus à Dieu, il ne pensait même pas que sa vie, elle était fragile, comme la coquille d'œuf, fragile. Il ne pensait plus, il n'avait qu'un mot dans la bouche, « je ». Vous voulez que je l'appelle monsieur « je » ? Je bâtirai des greniers, je serai riche, je dirai à mon âme, je, tu peux maintenant t'amuser, te réjouir. Mes amis, nous sommes créés pour nous ouvrir à quelque chose qui est plus grand que nous, pour nous ouvrir et pour recevoir une vie qui ne vient pas de nos parents, mais qui vient d'en haut, d'une source supérieure à tout ce que l'on connaît sur terre. Nous sommes créés pour recevoir la vie de Dieu lui-même, les sentiments de Dieu lui-même, Dieu lui-même en nous. Le cœur de cet homme-là, de la parabole que nous avons lue, je crois qu'il devait être tout petit, à la taille de son grain de blé, à la taille de ses greniers. Notre cœur est à la taille de ce que nous parlons, de ce que nous disons. Il y en a qui ne parlent que de voiture, ou qui ne parlent que d'alcool, que de jeux, que de vacances. Leur cœur est à la taille de ce qui les passionne. Et cet homme, eh bien son cœur, il est à la taille de ses greniers de blé. Pas de place pour autre chose. Pas de place pour une élévation, pour un amour, pour une relation différente. Ainsi, je crois que c'est une image de l'être humain qui veut être tellement indépendant qu'il va jusqu'à éliminer les autres, éliminer Dieu et se croire maître de la situation, maître de l'avenir, maître de sa destinée. Vous avez vu quand il a dit « Tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. » Bon, mon gars, t'en fais pas, t'as encore au moins 40 ans à vivre. Qui peut dire ce soir, je vivrai, je mangerai ma soupe tranquillement dans ma salle à manger ? Personne ne peut le dire. Demain, je me lèverai. Personne ne peut le dire. Nous avons perdu le sens. Il a perdu, cet homme, le véritable avenir que personne ne peut nous ôter. Et le seul avenir que personne ne peut nous ôter, ce n'est pas de manger sa soupe ce soir, je ne sais pas si je la mangerai. Le seul avenir que j'ai, certain, être avec le Seigneur. Être avec le Seigneur. Ça, j'en suis sûr. C'est la seule certitude. Dans la vie, nous avons des bousculades. Nous avons même tendance à perdre notre bon sens. Nous le perdons de plus en plus dans le déclin général de l'humanité. Mais si nous perdons Dieu, sans Dieu, il n'y a pas d'avenir. Notre âme est volée. Je vois la mort comme vous, on la côtoie à travers des membres de la famille qui nous sont chers. Nous devons réfléchir à cela. Être enfant de Dieu, ne pas nous laisser voler notre âme pour des histoires financières, des histoires de sentiments, des histoires de mauvaises relations, que personne ne nous vole notre âme, car nous sommes au Seigneur et non pas à nous-mêmes. Quel avenir face à la mort ? Une conscience, pas un sommeil. Troisièmement, une conscience, pas un sommeil. Vous connaissez l'histoire de la petite fille de Jaïrus, cette petite gamine de 12 ans qui était malade dans l'agonie et qui est décédée à la maison. À l'époque, on mourait toujours à la maison. Elle a 12 ans, c'est révoltant. Et ils vont chercher Jésus. Et Jésus a dit devant cette chambre qui était remplie de joueurs de musique et de pleureuses, et les parents étaient là, il a dit, elle n'est pas morte, mais elle dort. Pourtant, elle était vraiment morte. Voulant dire, si elle dort, elle va se réveiller. Puisqu'elle dort, elle va se réveiller. Il donnait une petite espérance aux parents. Et à ceux qui étaient là, il leur faisait un clin d'œil. Elle va se réveiller. D'ailleurs, les premiers mots des chrétiens pour parler de la résurrection, c'était le mot « réveiller ». On n'avait pas de mots pour ça. On n'avait jamais vu de résurrection. On disait deux mots, « réveiller » et « se lever ». Ça, c'était pour dire « je ressuscite ». Chaque matin, je ressuscite, moi, et vous. Je me réveille et je me lève. C'est deux mots pour dire « résurrection ». Alors, parfois, nous lisons dans les rubriques nécrologiques d'Ouest France qu'un tel s'est endormi. Même dans la Bible, on trouve parfois ce mot « endormi ». Mais ne pensons pas que quand on est mort, on dort inconscient, complètement ailleurs. On n'a plus aucune conscience du temps, des autres, de ce qui se fait autour de nous. Je pense que ça veut dire que notre corps et notre âme se repose. Cela veut dire fini les fatigues, fini les souffrances, fini les angoisses, comme un repos. Quand on meurt dans la paix et dans l'amour du Christ, il y a des choses qui s'arrêtent. Les soucis, les craintes, les terreurs, la peur. C'est pas de l'inconscience, c'est un repos. Pour me reposer, je ne dors pas toujours. Parfois, je pense à autre chose, c'est tout. Dormir, c'est pas la seule façon de se reposer. Mais quand j'ai plus de soucis, je me repose. Ça ne m'arrive pas toujours. Quand le pauvre Lazare est mort, des anges l'ont porté dans la présence d'Abraham. Et Abraham a dit, le père des croyants, il est ici consolé. Quand on est inconscient, on n'est pas consolé. Quelqu'un qui a perdu son enfant, qui dort, elle n'est pas consolée. La consolation, c'est être capable d'être réveillé, conscient et apaisé. La mort n'est pas un sommeil où on ne sent plus rien, on ne voit plus rien, on ne sait plus rien, on va passer des millions d'années comme ça dans une espèce de mort qui ne serait pas vraiment une mort. Pas un sommeil dans l'inconscience, mais un repos dans la conscience. Dans l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible qui nous ouvre une fenêtre sur le temps futur, nous voyons un certain moment des gens. L'Apocalypse, c'est le ciel ouvert. Hein. Nous voyons des gens qui crient. Ils crient parce qu'ils disent à Dieu, qu'ils ont été martyrs. On les a martyrisés. Il y a toujours eu des chrétiens martyrisés. Il y en a beaucoup aujourd'hui, au Proche-Orient, partout, en Égypte, en Afrique. Et ces gens, ils crient et ils veulent garder le souvenir de leur mort violente. Donc ils sont conscients. Ils ne sont pas endormis. Ils savent ce qu'ils ont vécu au moment du passage de la terre vers le ciel, vers Dieu. Et Dieu leur demande de rester en repos, pas endormis, en repos. Ne bougez pas. Le temps viendra. Donc, dans le ciel, dans la mort, j'aime pas le mot mort, j'aime mieux le mot ciel. Dans le ciel, il y aura une conscience. Jésus disait au brigand sur la croix qui meurt à côté de lui parce qu'il avait commis un crime, il disait « Tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. » Ce qui veut dire « Si tu es avec moi, tu vas me voir. » Tu vas savoir qui je suis. Tu vas découvrir que je suis le Christ consolateur, défenseur. Tu seras avec moi. Donc, on va se rencontrer. Il n'existe pas de consolation inconsciente. Nos yeux verront le Seigneur quand nous partirons en pleine lumière, en pleine conscience. Ainsi, les chemins. Être enfant de Dieu, bien sûr, ne pas se laisser voler son âme et puis savoir que quand nous fermons nos yeux, notre conscience tourne et nous restons lucides sur ce que Dieu fait avec nous ce jour-là. C'est rassurant. C'est rassurant, mais il faut que les vivants le sachent. Il faut dire la vérité aux mourants, tout doucement, mais il faut dire la vérité aux vivants. Parce que les vivants, il ne faut pas qu'ils pensent, bon, ils sont partis, ils ne pensent plus à rien. Ils sont en pleine lucidité et dans le ciel, il y a une foule qui célèbre le salut de Dieu. C'est écrit dans l'Apocalypse. La Bible dit aussi, Étienne s'endormit. Vous savez, Étienne, le diacre de la première église, qui a été lapidé, on a jeté des pierres sur lui. La Bible dit « Il s'est endormi ». Ça veut dire qu'il a fini sa course de lutte, de combat contre des gens qui lui faisaient du mal. Il a fini et maintenant est-il en train de dormir? Non, au moment de partir, il voit le ciel ouvert et Jésus debout qui l'attend. On n'est pas endormi. Quand je vous vois, je ne suis pas endormi. Étienne voit le ciel ouvert, Jésus qui se lève pour accueillir son fidèle témoin qui est mort sous les cailloux, lapidé par une foule à Jérusalem. On ne dort pas. À la transfiguration, quand Jésus a été transformé devant Pierre, Jacques et Jean, les apôtres, eux, ils dormaient. Ils dormaient, ils étaient fatigués. Mais Élie et Moïse sont apparus. Ils étaient morts, Moïse et Élie, depuis des centaines d'années. Ils sont apparus parlant avec Jésus, conscients, vivants. Dans le ciel, on reste avec notre personnalité transformée, avec notre lucidité, avec notre conscience. Ce n'est pas un paradis au bois dormant. On ne part pas en restant endormi pour l'éternité. La mort n'est pas une fuite, n'est pas une évasion. Jésus disait, si quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il meurt. Mais comment, Seigneur, si on meurt, on ne peut pas vivre. Il vivra, ça veut dire, il aura conscience. Il verra, il entendra, il parlera, même s'il meurt. C'est l'espérance chrétienne. C'est l'espérance de Jésus. Et nous connaissons mieux les choses. L'apôtre Paul disait, « Je connaîtrai comme j'ai été connu. » Aujourd'hui, on voit mal les choses, on n'appréhende pas très bien. Il y a un mystère, c'est la foi qui nous permet de l'appréhender. Mais l'apôtre Paul, il dit, je connaîtrai comme j'ai été connu, je connaîtrai les choses quand je partirai dans le royaume d'en haut. C'est grand, c'est beau, ça c'est l'amour de Dieu pour nous. Quatrième point, pour bientôt terminer. Quel avenir ? Dans la mort, il y a une attente joyeuse. Mes amis, Dieu a voulu créer un homme pour la terre. Un homme qui a besoin des autres, un homme qui a besoin de précautions, d'amitié, de relations. Un homme qui a besoin de Dieu. Et puis à partir de cet homme que vous êtes et que je suis, fragile, il a voulu créer un homme céleste, un homme pour le ciel, à partir de nous, comme un épi qui sort à partir du grain de blé, un homme pour le ciel, mais ça arrivera à un certain moment prévu par Dieu, dans un temps marqué par Dieu. Et quand nous partirons dans le royaume d'en haut, nous aurons une attente, nous vivrons une attente. Nous ne serons pas ressuscités tout de suite, nous ne serons pas tout de suite dans la perfection de notre éternité. Nous attendrons. Dieu disait à Daniel, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu recevras ton héritage à la fin des jours. Il faudra attendre, mon petit Daniel. Et quand on est dans le royaume d'en haut, il y a une attente joyeuse. On attend quoi ? La trompette de Dieu, l'heure de Dieu, où nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, en corps de gloire. Alors j'appelle ça l'état intermédiaire. Il y a le temps où j'étais fœtus, après il y a la jeunesse, il y a l'âge adulte, puis après il y aura ce départ et là j'attendrai encore, je ne serai pas encore arrivé au bout. C'est l'état intermédiaire, mais avec la joie, puisque nous serons avec Jésus. La joie dans cet état intermédiaire où nous n'aurons pas un corps glorifié, mais dans la joie parce que nos larmes seront essuyées. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de cris, de larmes. Jésus sera là, nous le verrons. Tu seras avec moi, dans le paradis. Donc ce sera une attente joyeuse. Et puis tout à coup, on passera à l'autre étape, la résurrection. Pas lentement comme la chenille. La chenille, elle se transforme lentement en papillon, tout doucement. Nous, ce sera en un clin d'œil. On a mis 9 mois pour naître, mais là, en un clin d'œil. Tous ceux qui sont dans le ciel qui attendent seront transformés en corps ressuscités. Tous ceux qui sur la terre vivront dans des époques sûrement très difficiles, quand Jésus viendra, seront transformés, transfigurés, en un instant, en un clin d'œil. Vous n'aurez pas le temps de dire « ouf ». Il y a quelque chose qui nous attend. Enfin, quel avenir ? Une attente joyeuse, mais je voudrais terminer. Quel avenir pour nous dans la mort ? Une entrée lumineuse dans la présence de Jésus. Une entrée lumineuse. Beaucoup de gens m'ont dit, oui, mourir, on veut bien, mais pas souffrir. Pas vrai ? Pas souffrir. Mourir, oui. Comment ça, oui ? Savez-vous ce qu'est la mort ? Est-ce que vous avez bien compris ce que veut dire le passage, le grand passage, le jour le plus important de notre vie ? Que va-t-il se passer ? Une entrée lumineuse. Lazare, le pauvre Lazare, le rebut de la société, couvert d'ulcères, qui mourait de faim à côté de la table du riche. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Il est mort et Lazare fut porté par les anges aux côtés d'Abraham. Porté par les anges. Une entrée princière, une entrée royale. Ce misérable, ce rebut de la société qui méritait même pas de manger, il rentre avec une escorte d'anges qui le conduisent dans la maison du Père. Voilà. Voilà la mort. On ne la cherche pas. Mais voilà. Quand Étienne, je reviens à lui, quand Étienne est sous les coups, il voit les cieux ouverts et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. Le Fils de Dieu se lève, le Christ se lève pour accueillir son serviteur Étienne. Et en mourant, Étienne, sous les coups des cailloux, il remet son esprit entre les mains de Jésus. Et il se met à genoux comme pour une dernière prière. Et il prie pour ses persécuteurs. Ne leur impute pas ce péché. C'est beau, c'est grand. Une entrée royale. Un psaume dit, « Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Quand les technologies auront fini leur travail, quand on ne pourra plus rester sur terre, nous partirons et nous aurons vraiment ce sentiment très fort, cette conviction, cette assurance, cette présence de Jésus à côté de nous, qui nous accompagnera. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, tu es avec moi. Jésus disait, sur un cimetière à Béthanie, à des sœurs qui pleuraient, Jésus disait, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Nous ne cherchons pas à partir, mes amis. L'apôtre Paul disait, il pensait être exécuté, il pensait être mis à mort par l'empereur Néron. Et quelques jours avant, il écrit dans une lettre aux Philippiens, il dit, « J'ai le désir de m'en aller avec le Christ, ce qui est pour moi le meilleur. » Il ne disait pas « Je vais dormir », il ne disait pas « Je vais disparaître ». J'ai le désir de partir avec le Christ, ce qui sera pour moi le meilleur. Je vous laisse avec ces paroles. Ce ne sont pas des paroles sombres. Je préfère savoir que c'est beau plutôt que ce soit terrible. Un avenir glorieux nous attend. Mais je reviens au point de départ. Si vous n'avez pas compris, je recommence tout. Quel est le point le plus important? Quel est le plus important, n'est-ce pas, de devenir enfant de Dieu? Le plus grand pas, le plus grand miracle, ce n'est pas de partir et de ressusciter. Le plus grand pas, ce n'est pas ce jour où nous allons partir. Le plus grand pas, c'est le jour où Jésus est descendu sur la terre. Ça, c'est le plus grand pas. Il n'y a rien de plus grand que ça. Et une fois qu'on a mis nos mains dans sa main, ça va aller. Ne craignez pas, croyez seulement. Dieu est avec vous. Amen.